Bonjour et bienvenue à cette table ronde autour de l'Antiquité avec quatre romanciers, quatre écrivains qui vont nous emmener dans un passé lointain et qui vont nous expliquer pourquoi ils ont choisi ces époques lointaines et surtout ce qu'ils ont pu y installer comme histoire. Et il se trouve qu'on a parmi nous Estelle Faye, coup de cœur de l'édition 2015 et qui a également, qui se verra remettre demain le prix Imaginal Jeunesse 2015, qui a été également finaliste du prix des lycéens. Donc, vous voyez, on est bien loti avec Estelle pour le tome 1 de La Voix des Oracles. Et avec Estelle, ce qui est intéressant, c'est qu'on va démarrer en étant finalement le plus proche de nous, puisque avec les autres auteurs, on va remonter dans un futur un peu plus lointain. Mais avec Estelle, on est sur la fin de l'Antiquité, véritablement, les derniers feux de l'Empire romain et l'avènement, véritablement, d'un christianisme dominant. Alors, j'ai peut-être finalement répondu à la question que j'allais vous poser, Estelle. C'est pourquoi le choix de cette période?
En fait, cette période, elle est vraiment passionnante parce que dans le tome 1 qui se joue en Gaule, on a à la fois au sud de la Gaule encore l'Antiquité, c'est encore l'Empire romain, même s'il est finissant, même s'il est lézardé de partout. En gros, le tome 1, il se passe environ 5 ans avant que les barbares entrent dans Rome. Donc pour l'instant, Rome reste inviolée et l'Empire romain, s'il ferme les yeux très très fort, qu'il se bouche les oreilles, il peut croire encore qu'il va durer des siècles. Bon, il est complètement vérolé de l'intérieur, mais quand même, il peut encore s'illusionner. Et au nord-est de la Gaule, là où nous nous trouvons aujourd'hui, en fait, dans les Vosges, c'est déjà, les barbares se mêlent déjà à la population locale, on est déjà dans un proto-Moyen-Âge. L'Empire est devenu chrétien, mais dans ce christianisme, il y a d'anciennes traditions païennes qui perdurent encore. Et là, en plus, comme on est dans de la fantaisie, il y a d'anciens dieux païens qui sont là et qui essayent de revenir quand même, qui essayent de se refaire une petite place au soleil.
Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est cette cohabitation entre, on va dire, les humains et le merveilleux qui était finalement assez naturel sous cet empire romain et qui va devenir quelque chose de totalement interdit dans cette nouvelle civilisation qui est en train d'apparaître.
Oui, c'est-à-dire on est encore dans un monde où les gens croient donc aux faunes, aux sylvains, aux oracles. Et comme on a cet instrument merveilleux de l'imaginaire, on peut vraiment faire arriver les faunes, les devins, les oracles dans le livre. Mais ce merveilleux-là qui tenait le haut du pavé lors de la grandeur de l'Empire, aujourd'hui il est pourchassé. Quelques dizaines d'années plus tôt à Rome, l'Église a brûlé ce qu'on appelle les livres sibyllins, qui étaient les grands livres de prophétie de l'Empire romain, qui étaient l'un des plus grands trésors de l'Empire. Et maintenant, donc, c'était vraiment ces livres brûlés, ça veut dire que l'époque n'est plus aux oracles, l'époque n'est plus aux merveilleux, mais l'époque est à cette première Église chrétienne qui, elle, essaye justement de rationaliser un peu ce monde. Et donc, on a une tension entre rationnel et merveilleux qui, forcément, est super intéressante pour un auteur. Il n'y a qu'à se servir.
Xavier Mauméjean, avec vous, on va remonter beaucoup plus loin, presque aux origines. Là, on est même plus qu'encore dans l'Antiquité. C'est vraiment carrément les sources des civilisations et des civilisations, qu'on le veuille ou non, et qu'on soit ministre ou pas, dont nous descendons encore aujourd'hui.
Et dont on parle hélas beaucoup aujourd'hui.
Oui, exactement, puisque là, en plus, avec Car je suis Légion, on va être du côté de Babylone.
Oui, tout à fait. Alors, moi, ce qui m'a intéressé, c'est dans l'étude de Babylone, c'est le fait que ce soit pour nous gréco-latins, pour faire simple, le radicalement autre. Babylone, c'est comme s'il y avait des Aztèques à 2 heures de vol de chez nous, c'est à peu près ça. C'est une civilisation où il est tout à fait normal d'avoir dans la maison des koubous, c'est-à-dire des fantômes d'enfants morts, les enfants qui sont soit issus d'avortements ou qui sont morts dans leurs premiers mois sont toujours là. Quand on a un bébé, on lui façonne un collier avec des petites têtes de Pazuzu, qui est le démon qu'on voit dans le film L'Exorciste. Et donc, en confiant votre bébé à Pazuzu, le prince des démons, vous êtes sûr qu'il ne lui arrive rien. Enfin, c'est cet imaginaire-là qui est tout à fait normal, celui de Babylone, qui m'intéressait parce qu'il est totalement différent de nous et qu'il est, comme vous l'avez très bien dit, c'est une de nos sources en tout cas, puisque au même moment le peuple juif a été réduit en esclavage littéralement par le roi Nabucodonosor II, donc il a exilé quantité de juifs d'excellents artisans, des scribes à Babylone pour servir l'Empire. Et en retour, les Araméens vont hériter de toute la religion babylonienne, le déluge, le serpent des origines, le jardin, etc. Le jardin, c'est le jardin suspendu de Babylone. Et donc, moi, j'ai écrit un roman qui se passe lors d'un fait réel qui avait lieu régulièrement, qui est que quand il y avait de mauvais présages, les prêtres parfois décidaient d'arrêter le temps. On figeait le temps que les dieux principaux se reposent. C'était normal, ils agissaient à notre égard, donc on devait les payer en retour. Et pendant que le temps était suspendu, puisqu'il n'y avait plus de temps, il n'y avait plus de loi. S'il n'y a plus de temps, il n'y a plus de passé, donc il n'y a plus de tradition, il n'y a plus de coutume, il n'y a plus de futur, donc il n'y a plus de projet. Et s'il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur, il n'y a plus de présent. Donc pendant ce non-temps, vu qu'il n'y avait pas de loi, tout était permis. Donc massacre, viol, vol, inceste, etc. De manière à faire couler le sang pour régénérer les dieux. Et une fois que les prêtres avaient estimé que les dieux avaient suffisamment pris de repos, on arrêtait cette période de non-temps et tout devait recommencer à l'identique comme avant, en tenant pas rancune en plus. Dans une famille où il y avait eu un infanticide ou un parricide, la vie devait reprendre telle qu'elle. Parce qu'il y avait une loi, hein, c'était pas une coutume, c'est une loi qui décrétait le pardon général. Et donc mon roman se passe pendant cette période de non-temps où un juge, alors les juges de Babylone étaient juges, jury et bourreaux, ils étaient la loi en marche, ils étaient appelés Satamou, qui a donné Satan, tout simplement, les accusateurs. Et donc c'est un de mes juges qui ne peut pas agir puisqu'il n'y a plus de temps, mais qui repart dans le massacre général un meurtre qui semble avoir été prémédité et donc prévu avant la suspension du temps. Et donc dans cette espèce de chaos total, il va enquêter. Voilà.
On va y revenir, parce que il y a des aspects intéressants dans ce que vous venez de dire, Xavier, et qu'on examinera un peu plus en détail. Aurélie Wellenstein, on part avec vous, alors également dans l'Empire romain. On va voir que c'est un empire romain un petit peu décalé quand même, hein, parce qu'il y a une notion de fantastique qui intervient à l'intérieur. Expliquez-nous un peu la genèse de Chevaux de Foudre, où est-ce qu'on est, quand?
Alors en fait, à la base, j'avais vraiment envie d'écrire un roman historique. Je suis partie dans l'idée de faire un roman historique avec au cœur de l'aventure des chevaux. Donc j'ai ouvert mon encyclopédie du cheval que j'ai à la maison, j'ai un peu feuilleté les différentes époques qu'il y avait autour de la mythologie équestre. Et je suis partie d'anecdotes en fait qui m'ont marquée, qui m'ont frappée, qui m'ont plu. Et qui m'ont amené à Rome. C'était déjà la première chose que le cirque Maxime, où se déroulaient les courses de chars dans l'Antiquité romaine, était sans doute le plus gros édifice sportif qui existait sur Terre. Et déjà, je trouvais ça intéressant donc, que l'intrigue se déroule dans un bâtiment aussi extraordinaire qu'était cet hippodrome. Et l'autre anecdote qui m'a bien plu, c'était que le sportif le mieux payé de tous les temps serait un orige, quelqu'un qui dirigeait un char à l'époque et qui s'appelait Dioclès. Et vraiment, on dit que sa fortune était plus grande que celle de Tiger Woods, quand on remet les monnaies. Enfin, je sais pas comment ils font leurs calculs. Bon, voilà.
En sesterces constantes.
Et donc, voilà, ce Dioclès qui était donc un esclave illettré et qui est devenu un champion adulé par les foules à Rome et qui gagnait des fortunes avec ça. Donc voilà, ça m'a plutôt intéressée. Je trouvais ça marrant. Donc j'ai eu envie de faire un roman donc sur le cirque Maxime, sur les courses de chars et autre chose que j'avais envie de faire, c'est-à-dire que avec les gladiateurs dans l'arène, il y aurait eu des gladiatrices. Ça, c'est historiquement dit qu'elles ont existé. Par contre, dans les courses de chars, il n'y avait pas de femmes. ça nulle part dans mes recherches, en tout cas, j'ai vu ça. Donc voilà, j'ai eu envie de faire un personnage de fille qui allait finalement se défendre à travers les courses de chevaux à Rome, une petite esclave qui va, anonyme, qui va se faire un nom dans les courses au Cirque Maxime. Et peu à peu, en fait, quand j'ai fini le roman, il y a eu quelque chose qui m'a... Je sais pas, je trouvais que c'était pas... Il me manquait quelque chose, et en fait, c'était la dimension fantastique.
Alors, on va y revenir sur cette dimension fantastique. Ouais. Et puis, on va terminer ce premier tour de table avec Alain Grousset, qui, comme tous les ans, va nous expliquer sa ferveur et sa passion pour le monde antique. D'où vous vient-elle, cette passion pour le monde antique, Alain ?
Je ne sais pas. Non, je ne sais pas du tout. Mais, en fait, moi, je suis le seul à ne pas mélanger le fantastique avec l'antiquité par rapport à mes trois... co-auteur à côté de moi. Moi, j'aime bien le roman historique. Je prends ça pour me laver la tête un petit peu de deux, trois romans de science-fiction que je fais. Puis après, je passe à un roman historique. Et après, je reprends les romans de science-fiction. Mais je reste dans une rigueur historique. Bon, peut-être aussi, peut-être parce que je pense, comme je m'adresse à des enfants... Et que les enfants vont à l'école, et que l'école, il y a des professeurs d'histoire, et que les professeurs d'histoire n'aiment pas trop forcément le mélange. Donc je reste vraiment le puriste de ce côté-là.
Alors c'est un aspect qu'on verra avec plusieurs de nos auteurs ici, puisqu'on a, sur quatre, on a trois romans étiquetés jeunesse, hein, même si ce n'est pas forcément toujours le cas, mais on en a au moins vraiment deux auteurs pour un public très jeune. On verra justement comment vous travaillez. Mais Estelle, sur quel... Décidément, il est courant d'air. Sur quelle source peut-on travailler quand on s'attaque justement à une époque comme ce 5e siècle dont on apprend, alors dont on apprenait peut-être, parce que je suis peut-être d'une génération où on apprenait encore ça, mais que il y avait Attila le Hun, il y avait Clovis, et là on est entre les deux finalement, c'est ça?
On est avant, on est quand même vraiment au tout début du 5e siècle. C'est-à-dire, en gros, donc je parlais de l'entrée des barbares dans Rome, c'est, si on veut des dates, c'est 410. Et là, en gros, pour moi, ça commence vers 405, en gros, le roman, vraiment juste avant. Donc, à ce tournant vraiment de l'histoire. Bon, après, sur une période historique, il n'y a pas de secret de la documentation, encore de la documentation et toujours de la documentation. Voilà.
Mais elle est d'époque ou c'est vraiment du travail historique
C'est tout ce que je peux lire, tout ce sur quoi je peux tomber, tous les gens que je connais qui s'y connaissent dans la période, qui me conseillent des livres, avec qui je discute. C'est aussi pour recréer l'époque vraiment, quelque chose qui me vient peut-être de mon ancien boulot, c'est essayer de recréer concrètement des morceaux de l'époque. Par exemple, essayer de recréer des recettes romaines avec les ouvrages donc, d'adaptation des recettes romaines aux ingrédients actuels, essayer de recréer des combats au glaive. Qu'est-ce que c'est un combat au glaive romain contre une épée barbare, par exemple? Quelles sont vraiment les sensations qu'on a quand on entre dans ce genre de combat? Donc, moi-même, en faire avec... J'ai la chance d'avoir des amis qui font de la reconstitution d'escrime ancienne. Et ça me permet donc d'aller leur dire « Tiens, tu veux pas faire un petit duel, là? Allez, voilà, alors j'ai besoin de ça et ça pour ce roman. Donc, on va faire ça ensemble. » Et voilà.
Ça pèse une tonne, un glaive romain, non?
Bah, de toute manière, beaucoup, disons, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à tout ce qui est armes anciennes, petite digression, ce dont je me suis aperçue, c'est qu'elles sont en général beaucoup plus lourdes que ce que je croyais, et y compris la rapière qui fait toute fine, qui fait toute élégante dans certains romans de fantasy. Non, une rapière, c'est pas fin, c'est pas élégant, une rapière, c'est brutal. Une rapière, ça pèse une demi-tonne, et une rapière, c'est fait pour faire mal, et c'est fait pour faire mal à une époque où la moindre blessure peut gangréner et peut vous faire mourir. Donc c'est une arme grossière, c'est une arme vraiment qui tape fort, et ça c'est quelque chose qui par exemple est super intéressant bon, pour d'autres époques. Donc là on s'égare un peu. Pour finir sur la documentation, il y a aussi quelque chose dans cette période qui est passionnant, c'est que l'histoire même de cette période est en mouvement. C'est-à-dire moi quand justement on m'a appris à l'école un petit peu l'histoire de cette période, il y avait grosso modo la superbe civilisation romaine qui même mourante était quand même pas mal, et les gros méchants barbares incultes qui venaient donner des coups de boutoir là-dedans. Et finalement, dans les derniers travaux d'historiens que j'ai pu lire, il y a des visions beaucoup plus nuancées de la période, et en tout cas des gens qui remettent un peu en cause ça et qui disent que finalement, il y a aussi des choses qui sont arrivées avec les barbares qui n'étaient pas que... c'était pas que de la destruction, c'était aussi de la création de quelque chose d'autre. C'était aussi finalement des transitions qui étaient beaucoup plus complexes que ce qu'on croit. Et ça, c'est super passionnant de se plonger là-dedans.
D'ailleurs, on voit déjà que certains se sont sédentarisés sur un territoire qui, normalement, est encore l'Empire romain.
Voilà, c'est ça. C'est, de toute manière, déjà l'Empire romain et déjà la Gaule, c'est un énorme mélange de populations. C'est dès la première ville donc, que voit mon héroïne, qui est une petite bourgade d'Aquitaine. Déjà, là, il y a un mélange de populations énorme. Enfin, il y a même des Pictes qui viennent au-delà du mur d'Adrien pour faire du commerce, avec donc des gens qui viennent de Massilia, avec des gens qui viennent même de l'autre côté de la Méditerranée, de la Mare Nostrum. Et déjà, tout ce monde-là se retrouve en Aquitaine. Donc, c'est un gros creuset. C'est beau, les choses sont beaucoup plus nuancées, beaucoup plus colorées, finalement, que certaines images un peu toutes faites qu'on pouvait avoir. Et c'est très intéressant.
Alors, même question un peu pour Xavier Mauméjean, puisque là, on est encore beaucoup plus loin. On peut s'imaginer que ce n'est pas forcément si évident que ça de trouver de la documentation ou en tout cas de trouver des éléments qui permettent de reconstituer, puisqu'on le sait, les fameux jardins suspendus de Babylone, ils ont disparu depuis un bon bout de temps déjà.
En fait, non, c'est relativement facile, puisque l'écriture vient de cette région du monde, et l'écriture est d'abord utilisée pour des choses extrêmement concrètes. En fait, il existe trois systèmes d'écriture, un système souverain, un système artistique, poétique, et celui qui est le plus répandu, c'est celui qui consiste à mesurer et consigner la dimension d'un champ, faire des inventaires de grains. Donc au contraire, on est très 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 renseigné. Puis il y a des surprises. Par exemple, Hérodote, qui est un des premiers écrivains voyageurs, nous donne son aperçu de la tour de Babel. Donc c'est intéressant, même s'il exagère les mesures de la tour de Babel, on voit que quand même déjà elle existait, et que ensuite elle était extrêmement impressionnante. Et puis il faut chercher, c'est marrant, par exemple, moi, je prépare toujours beaucoup en documentation mes romans, mais il y avait un truc que j'avais pas prévu. Donc le héros, après cette dure journée de redresseur de tort dans le chaos absolu, rentre chez lui, il y a sa femme qui l'attend, et il franchit la porte, il y a sa femme qui l'attend, il traverse la cour, sa femme se rapproche de lui, et quoi ? Est-ce qu'ils sont embrassés ou pas? J'en savais rien. Donc j'ai arrêté, pendant 3 jours, j'ai cherché partout. Et grâce à Hérodote, une fois de plus, qui devait vraiment regarder partout, Hérodote, ils ont pu s'embrasser, puis l'histoire a repris, quoi. Voilà. Donc non, en fait, ils sont très très faciles. Et puis il y a des gens magnifiques comme le spécialiste de la Mésopotamie, Botero, qui a écrit de grandes choses. Donc c'est plutôt facile à chercher. Puis, par exemple... en géologie, c'est-à-dire leurs anges sont tellement précis, parce que ce sont les nôtres en fait, qu'on sait quel ange... il y a des descriptions babyloniennes qui sont fascinantes. Par exemple, un ange qui n'est pas le plus grand des anges, hein, c'est juste l'ange de base, vous voyez, c'est l'ange qui descend. Bon, chacun de ses cheveux contient 1 million de têtes qui hurlent le nom de Marduk. Ça a de l'allure quand même. Et ça, c'est pas le chef, c'est un ange. Voilà, donc c'est assez précis.
Satan est dans les détails, si j'ose dire.
Oui, tout à fait, voilà, tout à fait. Oui. Et aux cheveux près, donc, non, c'est plutôt facile. Par contre, ça demande d'assimiler tout. Mais ça, tout le monde ici fait pareil. Et puis, il faut pas qu'on voit qu'on a fait des fiches. Hein. Il faut que ça soit naturel.
Que ça soit trop didactique, finalement.
Ah, surtout pas, c'est horrible. Hein, sinon, c'est d'abord raconter une histoire. Et puis, je crois que mes collègues, ce serait la même chose. Il faut savoir aussi renoncer à des informations, des choses qu'on aime bien et tout. Mais non, on n'arrive pas à mettre. Voilà.
Aurélie, justement, il y a une description de ce fameux cirque Maxime dans Chevaux de foudre. Là aussi, j'imagine qu'il y a eu un travail de documentation important, ne serait-ce que pour lui redonner sa figure d'origine.
Oui, tout à fait. En fait, donc j'ai cherché pas mal en bibliothèque, sur Internet, sur le site Percé, où il y a vraiment des choses merveilleuses. C'était une source de documentation incroyable. Au niveau du cirque, ça c'était pas le plus compliqué, parce qu'il y avait beaucoup de reproductions d'époque. Maintenant il est rasé, hein, faut savoir, il n'existe plus. Enfin rasé, on l'a pas. Voilà, c'est pas une guerre qui l'a effondré. Mais voilà, il y a quand même dans les bouquins, on retrouve exactement comment c'était. Donc ça c'était pas trop compliqué. Après j'ai eu des recherches qui m'ont vraiment en poser problème, c'était où est-ce qu'étaient les écuries, en fait, où est-ce qu'ils pouvaient mettre tant de chevaux de course dans la ville. Et ça, en fait, j'ai jamais trouvé la réponse. J'ai posé la question sur des forums, passion, antiquité, tout ça, et je crois que c'est aussi pour ça que j'ai fait un roman fantastique, finalement. Je me suis dit, mon Dieu, si je donne des fausses informations, comme ça, je vais dire, oh, c'est fantastique. Voilà.
Donc, le Latium Terre de Ranch, c'est assez surprenant à imaginer. Mais...
Donc voilà, là les écuries, je les ai mis dans la ville, mais c'est possible qu'en réalité les haras étaient à l'extérieur. Mais ça, j'ai jamais vraiment réussi à savoir. Sinon, on est quand même sur Rome, on a quand même de la chance. Il y a beaucoup beaucoup de matières qui sont restées, qui sont connues, qu'on peut lire, qu'on peut exploiter. Voilà, donc c'était vraiment plaisant à faire.
Par rapport à l'ambiance que vous décrivez dans ce Cirque Maxime, ouais, qui est une hystérie collective absolument démentielle, vous remarquez, je dis ça, mais enfin, cette semaine, on s'est battu dans les gradins de Roland-Garros, donc on n'en est pas si loin, mais oui, ça tourne parfois carrément à la baston générale dans les gradins.
Oui, il racontait aussi que les gens n'osaient pas partir le midi pour déjeuner. Ils restaient, ils amenaient à manger pour rester dans les gradins, pour ne pas se faire voler la place. Et c'était, il y avait aussi tout un échelonnement des places les plus proches, en fait, de la piste aux plus lointaines, dans les hauteurs très loin de la piste, donc en fonction de l'argent que vous aviez.
Parce que la capacité du Cirque Maxime, c'était...
Alors ça a changé en fonction des siècles, il a été beaucoup agrandi, puis il y a eu un incendie qui l'a rétréci, puis ils ont refait, et alors je ne sais plus le chiffre, c'est assez terrible, je crois que c'est 350 000. Mais
c'est une belle ville déjà, à lui tout seul. Hein. C'est ouais. une grande non, ville.
C'était la capacité énorme ici. Bon, c'est un hippodrome, alors c'est tout en longueur.
Bon, on y reviendra sur l'hippodrome, parce que c'est aussi un des moments forts du roman, hein. Ouais. c'est courses. Alain Grosset, on va parler de l'Égypte avec vous, puisque c'est encore un domaine qu'on n'a pas tout à fait abordé avec les différents auteurs qui sont là. Cette Égypte antique, alors votre roman, il se déroule à quelle époque à peu près?
Je me souviens
même
plus.
Pas à peu près.
Je me souviens plus du tout. Je crois, non, je ne sais plus.
Tu l'as devant toi si tu veux.
Non, je ne prends pas mes lunettes. Alors donc, ce qui est intéressant, c'est le côté recherche. Quand tu me disais pourquoi le roman historique par rapport à des romans de science-fiction et tout, je pense que ça lave la tête, mais en même temps, c'est le plaisir déstructurant. Enfin, moi, on aime tout, on veut tout savoir avant de commencer. Et là, le roman historique, effectivement, on plonge de plus en plus dans la doc. Et on découvre des choses, effectivement, qui vont nous servir. Et à un moment, comme dit Xavier, il faut savoir dire stop pour commencer. Je connais plein de gens. Lorsque je vais aux archives municipales à Orléans, puisque j'habite à côté d'Orléans, et je vois à longueur d'année toujours les mêmes personnes. Et ça fait 20 ans que ces gens-là font des recherches pour un livre qu'ils n'écriront certainement jamais. Donc là, c'est la peur de la page blanche, c'est-à-dire qu'il leur manque toujours une petite information pour descendre. Donc il y a un moment donné, il faut savoir dire stop, et en même temps, il faut avoir quand même suffisamment d'informations pour pouvoir se plonger à l'intérieur et pour vivre. Et une fois qu'on vit bien à l'intérieur, bon, ça y est, ça va naturellement venir au moment de l'écriture. Alors, bon, effectivement, moi, l'Égypte, j'avais appris ça... aussi, comme tout le monde. Ça faisait longtemps que je voulais écrire un livre pour les enfants sur l'Égypte, mais il y a tellement de choses de fait que je n'arrivais pas à trouver l'angle d'attaque. Et c'est un ami qui est magicien, et après une discussion où il n'a pas fait disparaître les bouteilles, nous avons discuté.
Seulement le contenu.
Et il m'a dit qu'effectivement, les premières histoires de préjuditation ont commencé au moment de l'Égypte. Et c'est là que d'un seul coup, moi, ça a fait tilt et je me suis dit, tiens, voilà un angle d'attaque à laquelle je pourrais me servir.
Est-ce que le fait justement de s'adresser à un public jeune, c'est aussi la nécessité du coup d'être assez ludique malgré le côté historique?
Oui, parce que les enfants adorent ce genre de choses, mais effectivement, on ne peut pas être vraiment faire des descriptions sur 3 pages et tout, parce que ça les ennuie profondément, très vite. Hein. Donc avant tout, écrire pour faire plaisir aux autres, et pour les enfants, ça ne pardonne pas. Enfin, je veux dire, lorsque je vais dans les classes... c'est un public exigeant et qui me ravit quand un petit bout de chou comme ça, hein, et puis me regarde bien droit dans les yeux et dit « j'ai pas aimé ton livre ». Alors qu'un adulte va faire oui, alors donc j'ai bien aimé mais certains passages, oui, oui. Donc voilà, être adulte, c'est mentir. Mais eux, non, ils sont francs de port. Et, alors après, bon, la discussion s'engage. Pourquoi t'as pas aimé? Ouais, c'est trop gros. Alors déjà, voilà, c'est déjà un critère. Donc voilà, on est en permanence, on a le reflet direct de l'écriture. Voilà pourquoi j'adore aussi écrire pour la jeunesse et que je ne fais qu'écrire pour la jeunesse.
Estelle, même question sur le fait de s'adresser à un public dit jeunesse, même si c'est vrai que La Voix des Oracles peut être lue par tout public, enfin, comme tous les livres qu'on présente, mais dans l'étiquette jeunesse, c'est peut-être, il ne faut pas forcément s'arrêter
ado,
à ça.
Voilà. C'est ado-adulte. Donc,
ça donne quand même quelques contraintes.
Non, je ne vois pas ça comme des contraintes. Disons, le côté adolescent, c'est que c'est vraiment un roman d'initiation, c'est vraiment un roman d'aventure. On a vraiment un personnage adolescent qui va se construire, qui va sortir de l'enfance en abandonnant aussi 2-3 croyances, 2-3 illusions peut-être, pour vraiment construire sa personnalité d'adulte au fur et à mesure du voyage. Donc ça, c'est voilà pour l'aspect adolescence. Maintenant, de toute manière, pour le côté pas trop didactique, l'idée, c'est que oui, c'est un monde historique, avec donc la documentation derrière, mais je l'ai écrit vraiment comme un monde de fantaisie, en fait. Simplement, c'est un monde de fantaisie où ce qu'ils vont manger dans les auberges, ça ne sera pas donc la 216e miche de pain avec du lard, mais ça sera tel ou tel plat qui dit telle ou telle chose et qui, en plus, amène un petit supplément d'âme, quoi. Mais sinon, vraiment, c'est écrire comme de la fantaisie et le penser comme tel.
Et par rapport au, puisqu'on est encore un peu dans la documentation, mais par rapport justement aux différents personnages merveilleux, ou enfin quand on dit merveilleux, faut bien s'entendre, hein, c'est par moment c'est beaucoup moins merveilleux qu'on peut l'imaginer dans l'acception actuelle. Mais par rapport justement, puisqu'on voyage beaucoup, on traverse ce qui est aujourd'hui la France.
Ouais, après on va encore plus loin vers l'est, on traverse la Germanie, on traverse l'Empire sassanide. Donc,
et à chaque fois, on a un terroir pour les créatures.
Alors, ce qui est génial, c'est déjà les créatures merveilleuses et les dieux, ils voyagent quand même pas mal à cette époque aussi. Ils ont différentes incarnations selon les lieux, selon les endroits. Là, en plus, mon héroïne a des origines d'Étrusques. Les Étrusques, c'était une civilisation qui était vraiment, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas trop, pour simplifier beaucoup, une civilisation qui est encore assez mystérieuse et qui était là avant Rome et qui a finalement inspiré beaucoup de choses de la mythologie romaine et notamment tous les rituels de divination romains, en fait, qui viennent beaucoup de cette civilisation-là. Et donc, comme mon héroïne a des origines romaines, des origines étrusques et romaines, il y a carrément des anciens dieux étrusques qui s'intéressent à elle. Donc, dont Culsans, le dieu des portes et des passages, qui a deux visages, l'un qui regarde vers le présent, l'autre vers l'avenir, l'un qui regarde la surface et l'autre la vérité des choses. Et Culsans, il était peut-être le chaos primordial avant. On ne sait pas trop, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore trop sur certains dieux étrusques. Mais en tout cas, dans le livre, il est fermement persuadé d'avoir été le chaos primordial. Les autres dieux en doutent un peu et ça ne lui arrange pas son caractère. Donc voilà, c'est plein de personnages comme ça qu'on peut sortir. Ce qui est génial avec justement tous les dieux des panthéons polythéistes, c'est qu'ils ont des caractères très affirmés, très humains. Ils ont chacun leur petite personnalité. C'est des personnages super hauts en couleur. S'amuser avec, c'est génial.
Vous savez que les gens qui vont vous lire ici ne vont plus jamais vouloir aller se promener dans les montagnes vosgiennes après vous avoir lu.
Bon non, elles sont très jolies, les montagnes vosgiennes.
Oui, elles sont un peu dangereuses quand même.
Alors, déjà, je pense que maintenant, il y a moins de vandales avec des grandes haches dans les montagnes vosgiennes qu'à l'époque. Voilà. En tout cas, j'en ai pas croisé. Et sinon, Vosegus, donc le génie des monts des Vosges, voilà, que vous découvrirez là-dedans, il est plutôt sympathique au final quand même.
Ah, c'est... Mais il se passe quand même des trucs bizarres.
Un petit tremblement de terre ou deux n'ont jamais tué personne. Enfin, pas trop de monde en tout cas.
Pas trop par ici. Aurélie Wallenstein, là aussi, on a donc cette documentation, mais on est aussi vers un public très jeune, c'est 11 ans, c'est ça, hein. Comment est-ce qu'on parle justement est-ce qu'ils ont déjà étudié un peu à l'école cet empire romain? Comment est-ce qu'on réfléchit à s'adresser sur le plan de la civilisation et peut-être, comme le disait Xavier tout à l'heure, un peu du quotidien? Comment est-ce qu'on s'adresse je pense. Je vais prendre un exemple tout bête. Est-ce que le fait qu'Alix, le personnage principal, devienne dans les premières pages une esclave, est-ce que pour des enfants de 11 ans, c'est quelque chose qui peut être facilement envisageable?
Après, effectivement, je crois qu'ils font ça au programme de 6e ou 5e, l'Antiquité romaine. Donc ça, moi, j'imagine que ça fait écho après à ce qu'ils ont vu, ce qu'ils peuvent retrouver dans le livre. Mais là, je me suis attaquée un peu à un univers très spécifique, celui des courses. Donc, pour le coup, je pense que c'est moins connu. Et, enfin, il faut oui, peut-être qu'ils voient le Cirque Maxime rapidement, mais en tout cas sur le déroulement des courses, sur comment était, comment on travaillait aux écuries en fait. Ça, je pense qu'ils voient pas ça dans le cadre scolaire et que c'est sympa en fait d'entrer parce que dans le roman, dans mon roman, on va pas voir Rome dans son entièreté et tout ça, on le voit vraiment par le prisme de l'écurie et du travail l'écurie, puis après d'aller au sein de l'arène dans l'hippodrome pour aller sur les courses. Donc moi, c'est plus la dimension cheval aussi qui m'a intéressée de voir comment dans l'Antiquité on traitait avec ça, et surtout là c'est un peu la réflexion moderne que j'ai ajoutée parce que bon, c'était sans doute pas du tout comme ça à l'époque. Justement, ce que l'héroïne apporte, c'est ce côté un peu éthologie. C'est-à-dire qu'eux sont très brutales avec les animaux.
C'est la demoiselle qui murmure à l'oreille des chevaux.
Et voilà, complètement. Et donc, elle qui va amener, finalement, le don qu'elle a avec les animaux, de le prendre plus par l'écoute et par la douceur, ces mastodontes de muscles, et donc de danger aussi, parce que c'est des chevaux électriques, donc ils dégagent des charges d'électricité.
On y reviendra à ça.
Voilà, donc, mais... Voilà, le côté, vraiment le prisme des courses, c'est ça que j'ai voulu mettre en scène pour le jeune public, pour qu'il découvre en fait cette facette de l'Antiquité.
Xavier, Car je suis Légion, c'est un polar. Ça veut dire que sur un contexte historique donné dont on vient de parler précédemment et qui nous ramène combien ?
600 oui, en voilà. Notre ère.
Donc loin en arrière. On va coller finalement des codes littéraires un peu plus contemporains, finalement.
Ben, en fait, oui, c'est vrai que je voulais jouer sur des contraintes. Par exemple, le roman n'a pas une once d'imaginaire, en fait, puisque la situation décrite, elle est historique. C'est vrai que les Babyloniens arrêtaient le temps d'autant régulièrement. L'ambiance fantastique, c'est tout simplement parce que tous les personnages croient en leur dieu. Par exemple, mon héros est un juge, donc un qui est juge, jury et bourreau. Il peut, mais par exemple, tel jour, il y a un présage qui fait qu'il n'a pas le droit d'enquêter. Ben, il n'enquête plus, en attendant que l'événement passe. Et donc, il faut imaginer une logique qui n'est pas du tout la nôtre, qui n'est pas du tout la raison. Et donc, à partir de cette première contrainte, qui est l'imaginaire babylonien qui est complètement à la masse par rapport à nous, c'était de coller effectivement des contraintes très logiques, très rationnelles, et qui étaient d'imaginer un meurtre en chambre close, à l'intérieur, donc c'est-à-dire quelque chose de complètement fermé, à l'intérieur du démesurément ouvert, c'est-à-dire Babylone déchirée par tous les troubles qui pouvaient avoir. Donc c'était joué avec... le polar classique dans une mais en le détournant dans une civilisation classique qui n'a rien de classique, voilà.
Ce qui fait qu'on se poursuit dans les jardins suspendus de Babylone comme on se poursuivrait dans les rues de Los Angeles, quoi.
Ah ben, peu de choses près. Oui, tout à fait, sauf que on est à Babylone, donc quand on s'attrape on se décapite et de toute façon et en fait ce qui m'intéressait aussi c'était d'utiliser le roman. Parce que c'est plus qu'une enquête, c'est un mystère au sens moyenâgeux où il y a une révélation. C'était d'imaginer que la Genèse, c'est-à-dire le jardin d'Éden, le serpent, Adam et Ève, c'est cette histoire qui aurait été par la suite mythifiée, etc. Et donc mon héros, c'est Satan. Donc tout est expliqué, enfin, c'est bien sûr une pure invention, hein, mais tout est expliqué comme si de cette histoire. Vous voyez la mégalomanie, hein, quand même, hein, de cette histoire avait découlé le premier livre de la Genèse.
D'où voilà. Ce titre biblique, Car je suis Légion.
Oui, voilà. D'où le titre biblique, Car je suis Légion.
Alain Grousset, là aussi, finalement, comme vient de le dire Xavier, il n'y a pas du tout de merveilleux. Ah, c'est amusant parce que vous, qui êtes un auteur d'imaginaire, connu et reconnu comme tel, vous publiez donc un roman historique sur l'Égypte où il y a de la magie. Qui n'est pas de la magie.
Je suis fort. Hein.
Oui, c'est un beau contre-pied.
Non, mais justement, je voulais pas tomber dans la magie, disons, fantasy, mais vraiment la magie de la préjuditation, quoi. Voilà. Donc c'était ça, puisque c'était le départ de, historiquement, c'est vrai. Alors bon, ça commence avec les gobelets et puis la graine de, qui est planquée et qu'il faut trouver, il faut payer. Mais ça se termine donc au service de la religion, parce que là, ils étaient très forts, hein, ils avaient compris la physique, ils arrivaient à faire ouvrir des portes et refermer des portes, simplement par le feu qu'ils allumaient avec tout un système d'eau hydraulique.
Ils avaient déjà la notion de la machine à vapeur. Hein.
Tout à fait, ils étaient très forts. Donc ça, à l'époque, ça impressionnait les foules d'une manière fabuleuse, quoi. Donc c'était pour asseoir leur autorité. Ils arrivaient à faire parler des statues anciennes et tout. Donc du coup, j'ai pris le contre-pied puisque j'étais du côté du pharaon. Et là, donc le pharaon, il fallait qu'il démystifie un peu les tours de magie des religieux qui possédaient toute la richesse et qui ne voulaient pas en redonner. Et puis, donc, un truc tout bête, mon personnage récupère des petits oisillons et met des graines dans les oreilles du pharaon, et les oiseaux prennent l'habitude de venir manger les graines dans l'oreille du pharaon. Et du coup, une fois que ça s'est bien calé, on annonce la nouvelle que les oiseaux sont les espions du pharaon et qu'il voit tout. Donc là aussi, les foules, ça impressionne, parce que des oiseaux, il y en a partout. Et donc, lorsqu'il se réunit, ce qu'on voit, les oiseaux qui arrivent à toute vitesse et qui sont censés lui parler aux oreilles. Donc tout ça, ça a été, c'est pas de l'invention, c'est tout à fait vrai à l'époque.
Mais où est la part de rêve, alors ?
La part de rêve, elle est là parce qu'il y a une action à faire, à amener. Il y a une petite histoire d'amour aussi. Enfin, bref. Nous sommes des artisans avec des recettes et nous les maîtrisons au mieux possible. Voilà, non, mais c'est ça. Il n'y a pas besoin de forcément d'avoir un dragon à chaque page.
Estelle Faye, on l'a dit, on est avec un personnage adolescent qui a un statut particulier lorsque l'on la rencontre, Tia.
Oui, un peu.
Puisqu'elle est issue de la noblesse romaine, mais on l'a dit, cette noblesse est en pleine décadence, est en pleine déchéance. Et puis surtout, elle vit dans un cocon, pour ne pas dire une prison à barreaux dorés. Hein.
Oui, une prison, et puis bon, pas si dorée que ça quand même. Et déjà, c'est une famille de patriciens, mais qui elle-même est déchirée entre le père... qui tient à incarner la vieille Rome, les survivances de la vieille Rome, avec une colonne morale très forte. Donc c'est un ancien général d'Empire qui croit vraiment en la discipline, aux valeurs qui ont forgé la Rome légendaire presque, mais qui n'existe déjà plus. Et d'un autre côté, on a le frère de Tia qui, lui par contre, fait partie de cette nouvelle génération qui trouve que les légions coûtent trop cher, que les soldats prennent un peu trop leurs aises, et qui finalement, lui, a décidé d'arriver au sommet plutôt par l'intrigue et par... aussi par son esprit quand même, mais en tout cas pas en suivant la voie de son père. Et donc au milieu de tout ça, on a Tia. Et Tia a un don qui vient de ses ancêtres étrusques. Elle a un don d'oracle, elle a des visions de l'avenir qui parfois lui arrivent en rêve, qu'à d'autres fois elle provoque justement en suivant ses rituels de révélation dont je parlais tout à l'heure. Et quelques siècles plus tôt, donc, ce don aurait fait d'elle une des personnes les plus respectées de la société romaine. Simplement maintenant, les oracles, donc, on en fait volontiers du petit bois pour le feu. Et pour la protéger, son père l'a enfermée dans une villa au fin fond des forêts d'Aquitaine. Son père est le seul qui connaît son secret, donc elle a une relation vraiment fusionnelle avec lui. Et quelque part, pour son père, elle est le garçon qu'il n'a pas pu avoir. Elle est le garçon qui serait le garçon parfait, parce qu'il l'a élevé dans ses valeurs à lui, dans ses vieilles valeurs romaines. Et Tia, vraiment, elle a la tête qui est pleine de ses anciennes histoires, d'histoires donc de sacrifices, de discipline, de force morale, de moralité énorme. Et c'est avec... quand elle va devoir finalement quitter la villa d'Aquitaine, parce que si elle ne la quitte pas, il n'y a pas d'histoire. Donc quand son père va être victime d'un attentat et que pour le sauver, elle va partir en suivant ses visions, elle va devoir confronter cette vision du monde que lui a léguée son père à ce que le monde est vraiment devenu. Et à s'apercevoir que le monde, bah, c'est peut-être pas ce qu'on lui a raconté.
Il y a beaucoup de faux-semblants hein, dans cette
histoire. Oui, parce que c'est drôle.
Évidemment, on nous découvre tout cela au fur et à mesure. Aurélie Wallenstein, parlons de ces fameux chevaux qu'on a évoqués depuis le début de cet entretien. Ces chevaux de foudre, c'est pas un hasard, c'est qu'ils sont un peu particuliers, vos chevaux, quand même.
C'est des monstres. ils dévalent les contrées avec en horde sauvage, sous l'orage, avec des arcs électriques qui se forment entre eux. Et donc, du coup, ça attire un peu ces bêtes magnifiques et dangereuses, attire la convoitise des Romains pour leur hippodrome, qui se disent on va faire du spectacle avec ces animaux. Et donc, au début de l'histoire, donc ils capturent plusieurs chevaux, dont un étalon. Et donc, on va vivre après avec la jeune héroïne Alix, cette relation qu'elle va le nouer avec les talons. Et donc le cirque lui-même, le cirque Maxime, est un peu customisé hein, pour l'occasion.
Donc, en il y a fait, une maîtrise de l'électricité qui surprend un peu quand on voilà. imagine qu'on est,
ça, c'est vraiment la
qu'on est sur l'Empire romain.
La dimension fantastique avec l'électricité. Bon, au départ, j'avais fait des paratonnerres sur le cirque Maxime, mais bon, mon éditeur m'a dit non, enlève les paratonnerres. Bon, bah, du coup, le paratonnerre, c'est, vous savez, c'est l'obélisque qui sert de paratonnerre sur le cirque. Alors oui, donc la piste du cirque Maxime est électrifiée. Donc les chevaux de foudre courant sur la piste font jaillir des étincelles. Oui. Et si le malheureux cavalier tombe, il est rôti par...
C'est un effet de dynamo, en fait. Hein,
voilà.
Quasiment. ça donne quelque chose de très spectaculaire. Je pense qu'on est nombreux à avoir en tête une fameuse course de chars dans un célèbre film hollywoodien. Mmh. Alors là, il n'y a pas les chars, il y a juste les chevaux. Mmh. Mais il y a un peu le même esprit, c'est-à-dire qu'on suit du bord de la piste ces courses absolument incroyables, où tout le monde prend des risques absolument phénoménaux, avec la particularité que ces chevaux de foudre sont quand même assez imprévisibles aussi eux-mêmes, que tous les coups sont permis,
oui.
Également, on peut le dire. Et quand je dis les coups, c'est vraiment au sens propre du terme. Cette scène-là, comment est-ce que vous l'avez travaillée ?
En fait, c'est un mix. Bon, alors, au départ, j'avais fait vraiment les courses de chars avec les chevaux attelés, donc 4 chevaux attelés, des courses de quadriche. Et j'ai préféré revenir à la course montée, déjà, pour le contact. Je trouvais ça plus sympa avec l'animal. Et donc, pour la chute aussi, c'était assez spectaculaire. Et du coup, j'ai perdu le fil de la question.
Mais non, mais savoir comment vous avez travaillé sur cette scène
voilà.
de course.
Et oui, bah forcément, j'ai pensé à Ben-Hur, ça c'est bien sûr. Et aussi des choses plus modernes de course en ajoutant le danger. Et puis bon, il pleut, alors aussi ça réduit la visibilité, ça fait glisser. Vraiment, c'était pour que ce soit quelque chose de où il y ait pas mal de suspense, où les gens les cavaliers se mettent vraiment leur vie en jeu. Et à la clé, c'était que des esclaves. Hein. Déjà, historiquement, les courses de chars, c'était des esclaves. Et là, dans le roman, donc, j'ai repris un peu cette idée. Et ils peuvent, au fil des victoires, s'ils en accumulent beaucoup, avoir leur affranchissement et racheter leur liberté. Donc, il y a vraiment quelque chose là qui se joue pour les coureurs.
Il y a un point de vue particulier, c'est que, si je me rappelle bien, dans Ben-Hur, on est... suffisamment bien placé pour qu'on ne perde rien. Et puis surtout, il y a une multiplicité de caméras. Ouais. Là, le fait qu'on voit par le regard d'Alix, finalement, ouais. au moins pour une partie de cette course, fait qu'on n'embrasse pas la piste en entier, puisqu'il y a ce fameux mur au milieu. Ouais. Donc, il y a un moment où on est à l'aveugle.
Ouais. Et on entend ce qui se passe derrière, le fracas des accidents, les naufrages, ils appelaient ça à l'époque, naufragium. Et voilà, donc ça fait un peu hors champ. Moi, j'aime bien, de façon générale, dans tous mes romans, je colle vraiment à un personnage et je reste à travers ses yeux tout le long. Donc là, il y a deux points de vue dans le bouquin. Il y a sur le bord de la piste, pour la première course, et puis après, on est sur le cheval.
C'est rollerball aussi, un peu.
Ah, je connais pas pour le coup, mais ouais, je suppose que...
Sur les patins roulettes, hein, voilà. Parce qu'il y a des coups.
Oui, oui. Ouais.
Est-ce qu'il est l'heure ? Faut que je vérifie quand même, faut que je sois... Oui, on a quasiment terminé, donc on va pouvoir finir en roue libre avec, voyez, donc des univers très différents où vous voyez qu'on peut mêler l'histoire et les genres de l'imaginaire, et puis que finalement, mais l'imaginaire, on l'a bien compris, il s'invite tout seul dans ces histoires lointaines qui nous emmènent dans ces époques différentes. Donc vous pouvez voyager dans le temps, dans l'espace, partir bien dans la Gaule du 5e siècle, partir dans l'Égypte des pharaons, dans la Rome antique, même si vous l'avez compris, c'est une Rome antique un peu particulière, ou alors carrément retourner aux sources des civilisations du côté de Babylone avec Xavier Mauméjean. J'espère qu'on vous aura donné quelques pistes et quelques envies. Et évidemment, vous pouvez retrouver nos auteurs sous la bulle du livre pour soit poursuivre les discussions, soit faire dédicacer vos livres. Merci beaucoup.